vous. Donc ouais, je voilà, vaste question de faut-il laisser les enfants s'ennuyer, avec cette question récurrente en tant que papa et ayant trois filles. Papa, je m'ennuie x3 régulièrement. Et là, je me suis pris entre je dois, il faut. Et qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai oublié? Et là, je me dis, est-ce que c'est bon ou pas de répondre tout de suite à donner une activité ou pas à mes enfants? La difficulté, c'est qu'on est aujourd'hui dans une société où tout va très vite, où il faut faire, où la stimulation pour nous est égale éveil, égale apprentissage, égale réussite. On a du mal effectivement à laisser les enfants ne rien faire par peur qu'ils n'apprennent rien. Juste comme ça, deux petits chiffres. L'Éducation nationale a fait une petite étude. Il y a 93% des enfants de 6 ans qui font au moins une activité par semaine. Deuxième chiffre que je trouve intéressant, c'est les enfants de 8 ans passent plus de 2 heures par jour devant un écran. Ouais, autant, tu n'as pas. En fait, la question, quand j'entends « je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire », ça me renvoie à moi, quand je m'ennuie, qu'est-ce qui se passe? Déjà, est-ce que je m'ennuie? Non. Parce que je suis toujours en train de faire quelque chose et je dois faire quelque chose. Pourquoi? Parce que pour nous, adultes, quand on s'ennuie ou quand on a l'impression tout à coup qu'on va s'ennuyer, ça nous fait penser plutôt à quelque chose qui est de l'angoisse, du vide, de la peur, de « moi ». Et ça, je n'ai pas trop envie de me confronter, donc je vais essayer de remplir effectivement ce vide en faisant, en faisant, en faisant. En fait, l'enfant, quand il demande est-ce que je m'ennuie, qu'est-ce que je peux faire, on peut aussi se l'interpeller en disant en fait, je suis là, est-ce que tu es bien là derrière ton écran, est-ce que tu peux être attentif à moi? Et que peut-être au bout d'un moment, effectivement, de lui-même, il a pas cette capacité de pouvoir sans cesse renouveler ses activités, ses idées, et il nous interpelle pour savoir si nous, on peut être présent avec lui, disponible, et l'accompagner, l'encourager, effectivement, éventuellement, dans une activité ou dans un projet. L'ennui, en fait, permet plusieurs choses. Le premier point qui est important, c'est la créativité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous ennuyer, mais quand on s'ennuie, qu'est-ce qui se met en place? Il y a la question déjà de bah, « et maintenant, de quoi j'ai besoin ?» De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je ressens? D'essayer aussi de s'écouter, mais aussi de partir de notre imaginaire au niveau des enfants. C'est là où effectivement on peut les voir tout d'un coup nous imiter. Voilà, ça peut être très drôle aussi. Et favoriser cet imaginaire. Deuxième point qui est important, mais qui pour nous va être angoissant, c'est le fait que ça oblige à arrêter le temps, à ralentir, prendre le temps de s'écouter, prendre le temps de s'écouter dans son rapport à soi, dans son rapport au monde, et aussi vis-à-vis de l'autre qu'il a avec moi, ça peut être des frères, des sœurs, un parent, des grands-parents, et de pouvoir prendre ça en compte aussi dans mon environnement. L'autre point qui est important, enfin tout ça est étroitement lié, c'est le fait que ça favorise aussi forcément l'autonomie. Pourquoi l'autonomie? Parce que si déjà j'essaye d'être à mon écoute, si c'est aussi se poser la question des choix, c'est-à-dire là, quel choix je vais faire là maintenant pour pouvoir occuper le temps qui me reste avant de manger ou avant de partir à l'école ou de je sais pas quoi. Ça oblige effectivement ce travail de pouvoir poser des choix. C'est-à-dire de faire un choix au détriment d'un autre. Et pour que ce choix-là soit le plus pertinent possible, ben, voilà, je dois m'écouter là, à ce moment-là. Ça oblige à un moment donné aussi à s'organiser. C'est-à-dire que si je me dis, bah, tiens, là, je vais me mettre à faire de la peinture, ben, en fait, de quoi j'ai besoin pour faire de la peinture? J'ai besoin de la peinture, ok. J'ai besoin peut-être aussi de protéger ou de me protéger. Alors ça, c'est possible quand c'est déjà intégré. Quand ce n'est pas intégré, bah c'est peut-être là où effectivement il vient nous interpeller pour savoir si nous on est vigilants et est-ce qu'on peut l'accompagner dans la mise en place de son activité. C'est aussi apprendre à un moment donné à se connecter à ses désirs. Hein, de quoi là j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'aimerais. Chose effectivement qui n'est pas simple quand je suis tout le temps pris dans une activité, qui va passer d'une chose à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, je suis constamment en train d'enchaîner les pensées, d'enchaîner beaucoup d'ailleurs ce que l'autre veut pour moi, souvent les parents, hein, les adultes, mais me laisse peu la possibilité de me dire, mais moi réellement là, de quoi j'ai envie. Et ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs on voit, et c'est assez rigolo, quand des enfants commencent à s'isoler ou commencent à ne rien faire, je pense sur du périscolaire ou sur des centres de loisirs, assez rapidement, il peut y avoir un adulte qui arrive en disant « Mais ça va bien, t'es sûr, tu veux pas ? Ben, viens, viens, viens !» Et là, hop, on va prendre l'enfant, on va l'amener avec d'autres, hein, effectivement, pour pouvoir l'amener à rentrer dans l'activité. C'est-à-dire que ça montre bien que même nous, la difficulté qu'on a d'accepter qu'un enfant est là, dans un coin, à rien faire. Ouais. Après, ce qui est aussi important à pouvoir se rappeler, c'est que maintenant, on sait aussi, grâce aux apports des neurosciences, qu'en fait, un enfant ne peut pas ne pas apprendre. Hein? Là encore, un chiffre que je trouve assez intéressant, c'est que jusqu'aux 5-6 ans de l'enfant, un enfant fait 700 à 1000 connexions par seconde. Je vous laisse compter. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que l'enfant va faire, forcément, va créer une connexion et va créer une forme d'intelligence. Okay? Ça veut dire que je n'ai pas besoin de lui dire quoi faire pour qu'il devienne intelligent. De lui-même, il va devenir forcément intelligent. Après, ce qui va aussi l'inviter et l'animer à s'ennuyer, on va dire intelligemment, c'est aussi comment l'environnement dans lequel il est va aussi l'aider, le favoriser à se remettre dans quelque chose. Dans le sens où peut-être qu'à un moment donné, en fait, quand je pense à certains parents qui ont des, c'est peut-être le cas pour vous, je sais pas, mais des salles de jeu. Alors, c'est génial, l'enfant il est là, il a sa salle de jeu, il a tout à portée de main. Et sauf qu'en fait, au bout d'un moment, il voit tout. Et rien. C'est-à-dire qu'il est tout le temps devant ses jeux, et au bout d'un moment, il a tellement de jeux qu'il ne voit même plus en fait à quoi il peut jouer. Et bizarrement, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, hein, vous enlevez un jeu, vous lui redonnez une semaine après, il est hyper content, vous avez l'impression que vous avez acheté un nouveau jeu, il les redécouvre, et là, il va se remettre à jouer avec. Non ? Hein ? Et le fait de cacher comme ça des jeux, et le fait de le laisser redécouvrir, hop, ça repart et ça réactive effectivement chez l'enfant, voilà, sa capacité à pouvoir se le réapproprier, réimaginer effectivement les choses avec. Donc la créativité, tout ce qui est obligé à ralentir, hein, favoriser l'autonomie, hein, et puis tout ce qui va être une forme d'introspection. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, tu disais Nicolas qu'il n'y avait pas de livre ou peu effectivement sur l'ennui, on n'en a pas trouvé. En fait, il y en a plein, mais pas sur l'ennui, sur la méditation. Sur la méditation, sur le slow life, sur le rien faire, sur tout cet élan là aujourd'hui qu'il y a, alors beaucoup chez nous adultes, mais aussi beaucoup chez les enfants. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, s'ennuyer, quand nous on s'ennuie, en fait, on va payer quelqu'un qui va nous légitimer à s'ennuyer, qui va nous dire maintenant, vous pouvez méditer, vous pouvez vous asseoir et ne rien faire. C'est un peu paradoxal quand même. Hein, et donc toute cette mouvance, effectivement, de revenir, donc quelque chose qu'on peut apprendre, appeler la pleine conscience, c'est-à-dire de prendre conscience en fait que tout d'un coup, là, je peux m'arrêter et le monde ne va pas s'écrouler. Prendre conscience de où je suis, avec qui je suis, qu'est-ce qui se passe autour de moi, ça redevenir, on va dire, des êtres sensoriels. Voilà, et de pouvoir effectivement se décrocher, alors beaucoup des écrans, ça, hein, malheureusement aujourd'hui, on est beaucoup sur écran. Et pouvoir se dire que derrière l'écran, il y a aussi une vie. C'est assez perturbant des fois, mais avec tout ce que ça peut comporter. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des éléments qui peuvent être plus ou moins peinés, plus ou moins agréables, mais ça ne me fait pas effectivement Enfin, je suis obligé de pouvoir m'y confronter à un moment donné. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi pouvoir se dire est-ce qu'on ne pourrait pas aussi profiter que les enfants s'ennuient pour s'ennuyer avec eux ? C'est à prendre ce prétexte-là. À défaut de pouvoir le faire nous-mêmes, est-ce qu'on peut pas dire, soit il s'ennuie, tiens, je vais m'ennuyer avec. Idéalement, je peux me dire, je m'ennuie, est-ce que tu viens m'ennuyer avec moi ? Mais ça, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. La difficulté, c'est que pour accepter effectivement de s'ennuyer, c'est déjà aussi pouvoir accepter un lâcher prise. Lâcher prise sur le timing, sur les plannings, sur tout ce que j'ai à faire entre 18h et 21h, de pouvoir organiser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a réellement d'important là, maintenant. Est-ce que la vaisselle ne peut pas attendre 21h30 que l'enfant soit couché pour pouvoir la faire ? Est-ce que, je ne sais pas, passer le balai, ça ne peut pas être demain matin ? Voilà, c'est-à-dire dans les tâches ménagères que j'ai au quotidien ou même de travail, est-ce que je ne peux pas le faire après ou un peu plus tard ? Ouais. Ça oblige effectivement à prévoir des temps libres, prévoir des temps où il n'y a rien. Ouais, c'est angoissant. Mais prévoir, me dire, là, je ne sais pas ce que je vais faire demain. Et on a du mal, effectivement, à se dire, Bah voilà, et demain. Mais déjà, si aujourd'hui, je planifie quelque chose pour aujourd'hui, déjà c'est pas mal. Et se laisser la possibilité dans la journée, une heure où j'ai rien de prévu. Et à la rigueur, je peux aussi ne pas culpabiliser parce que je fais rien. Aujourd'hui, on a l'impression, enfin moi, mais peut-être vous direz, que quand je suis là, chez moi, et là je me dis, alors j'ai pas ça, j'ai rien à faire, bien, je vais faire quoi? Bah tiens, je vais passer un coup de balai ou je sais pas, je vais faire quelque chose pour comme si j'avais besoin de démontrer que non, je n'ai pas rien fait en fait pendant ce temps-là. Et se dire, bah, je peux prendre un bouquin, je peux prendre un truc, ça se verra pas, mais c'est pas très grave. Et voilà, je serai juste bien parce que j'ai pris un temps pour moi en fait. Aussi, bah, diminuer peut-être le nombre d'activités qu'on peut faire ou que l'enfant peut faire. Bah, peut-être effectivement que s'il fait trop d'activités le mercredi, alors effectivement, on a l'impression qu'il sera peut-être moins bête ou plus intelligent ou plus moteur. Sauf que bah, derrière, peut-être que est-ce que vous, ça vous met en joie de faire 3 heures par mercredi d'aller-retour entre les 2-3 enfants pour les activités? Est-ce que ça vous rend disponible ou pas? Peut-être pas. Peut-être ça vous coûte aussi en énergie de pouvoir organiser tout ça. Et peut-être se dire, bon, on va diminuer un peu, puis on va prendre un temps qu'en étant là avec eux. C'est aussi laisser les enfants seuls, livrés à eux-mêmes, avec une vigilance, bien sûr. Mais aussi entre eux, entre frères et sœurs, si c'est dans une fratrie, de pouvoir aussi les laisser tisser leurs relations entre eux en étant le moins possible présent ou présente. Et de faire confiance à ce qui va se passer et puis d'attendre de voir ce qui va se mettre en place. C'est peut-être aussi, voilà, au bout d'un moment, quand ils s'ennuient, bah les laisser un peu patauger. Alors, on dit, j'ai jamais vérifié, je vais être honnête, hein, qu'ils s'ennuient jamais plus de 20 minutes. Alors, 20 minutes, c'est hyper long. Hein. Essayer de tenir 20 minutes sans rien faire. Mais on peut quand même favoriser, c'est-à-dire qu'on peut proposer des activités. Est-ce que tu pourrais pas prendre un livre? Est-ce que tu pourrais pas faire, je sais pas, de la peinture? Est-ce que tu veux pas aller dehors? Est-ce que tu veux... enfin, mais dehors, c'est hyper large. Vous voyez, c'est de pouvoir poser des choix. C'est-à-dire laisser l'enfant faire ses choix, mais de proposer des choses. Attention, trop de choix, tout le choix aussi. Ouais. De pouvoir aussi renouveler les jeux. Hein, c'est ce que je disais, pourquoi pas en enlever régulièrement et pouvoir en ressortir. C'est qu'on n'est pas obligé d'acheter des jeux tous les 2 mois, quoi, ou tous les mois. Déjà, il y en a suffisamment généralement, même des livres. Hein. Puis souvent, vous avez remarqué, on peut séparer les enfants, ils aiment bien lire le même livre pendant 6 mois. Donc pourquoi est-ce qu'il y en a 15 à la bibliothèque? On peut dire, on en limite à 5, ça permet de varier un peu, puis régulièrement, on en met des nouveaux et on réinvite avec eux à faire. Et puis, la grande difficulté aussi, c'est comment je me rends disponible avec eux. Et accepter à un moment donné bah, que je laisse ce que j'ai à faire, que non, c'est pas urgent, que non, c'est pas important, et que là, ce qui va se jouer peut-être de plus important, c'est ce qui va se passer dans la relation avec mon enfant, ou mes enfants, s'il y en a plusieurs. Et que ça, c'est pas demain, après-demain, quand ils ont 18 ans, je me dis, ah, j'aurais dû, mais tout ce que je vais pouvoir tisser là maintenant au quotidien, de pouvoir effectivement me dire, tout ça, voilà, c'est une qualité relationnelle qui se tisse et qui me servira à n'importe quel âge, on va dire, de la vie de mon enfant. Après, ce qui est beaucoup plus compliqué, ça va être tout ce que ça va venir générer chez l'enfant, le fait de ne pas répondre à sa sollicitation. Ouais, un enfant qui vient, qui dit je m'ennuie, et vous lui dites, ok. Ouais, mais c'est toujours pareil. Et là, c'est parti en colère ou en frustration, qu'est-ce que de péter? Et là, c'est comment aussi arriver, il faut pouvoir se sentir aussi suffisamment disponible aussi, hein, de pouvoir accueillir la colère que ça peut venir générer chez l'enfant, la frustration, le fait qu'il va se rouler par terre, le fait qu'il va partir, qu'il va claquer la porte. Hein. Et ok, ça fait partie du jeu. Et pour autant, je ne dois pas, moi, me laisser toucher, là encore, par une pseudo-culpabilité qui va revenir à la charge et qui va me dire, ouais, en fait, c'est vrai, il a raison, et, hop, et là, on y retourne. Mais juste le laisser mariner. Ok. Et puis, bah, accepter que, ouais, que pendant ce temps-là, peut-être qu'il y a des gros mots qui vont fuser, peut-être qu'il y a des portes qui vont claquer, peut-être que la musique va se mettre à fond. Ok. Peu importe. Ouais. Mais ça fait partie du jeu et c'est souvent effectivement sur ça aussi sur lesquels ils peuvent jouer parce qu'ils voient bien qu'une fois, deux fois, ça marche, donc tant qu'à faire. Donc ça fait partie des choses qui sont pas simples, d'accepter la réaction de l'enfant et de le laisser un peu mariner. Et que contrairement effectivement à ce que on a l'impression, ce qu'on peut, c'est beaucoup des impressions hein, de cette idée que le parent il doit à tout prix remplir son enfant d'activité. Ben en fait, c'est bon quoi. L'enfant il est là, il fait rien, c'est ok. Hein, et c'est fondamental. Surtout, je trouve aujourd'hui, dans l'ère d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui et qui crée la société de demain de nos enfants, aussi de pouvoir à un moment donné leur apprendre à rien faire, leur apprendre à dire stop et de pouvoir de temps en temps aussi faire le choix de descendre du TGV et de ne pas se laisser embarquer dans la folle aventure effectivement de c'était de là où nous amène effectivement beaucoup encore une fois les écrans hein, et de dire, enfin voilà de pouvoir développer une capacité qui pourrait être stop en fait stop et pouvoir être seul avec moi-même avec d'autres aussi et ça indépendamment de ce qu'on va me dire ou bien vouloir me faire. Je sais pas trop combien de temps il reste encore. Donc toutes ces, voilà, toute la difficulté pour moi elle est là. Il y a ce dans quoi on est pris au niveau de la société hein, avec toutes ces injonctions paradoxales je vais dire hein, dans les blogs, dans les sites, dans les magazines de c'est important hein, que l'enfant alors, c'est une réalité plutôt enfin comment dire il a plus de capacité d'apprentissage en étant jeune. Pour autant c'est pas pour ça qu'il faut le saturer le plus vite possible. Et ça, c'est un peu un des biais qu'on voit aujourd'hui hein, dans les activités où dans, maintenant on voit hein, tous les apprendre l'anglais dès 3 ans. Si on pouvait faire dès la naissance, ce serait pas mal. Sauf que bah, plus effectivement l'enfant aussi va avoir d'informations à analyser, j'ai envie de dire à stocker ou à comprendre, et plus ça risque de parasiter. Hein. Par exemple, on sait que les enfants de parents bilingues hein, vont mettre plus de temps à pouvoir être à l'aise dans les langues. Parce que bah, ils ont deux langues qui viennent régulièrement se parachuter. Donc le temps effectivement que tout s'organise dans le cerveau, bah, forcément, ça mettra un peu plus de temps. Donc si effectivement vous transposez ça à toutes les activités, les compétences qu'on leur demande de faire, que ce soit motrice, que ce soit intellectuel, que ce soit manuel, je veux dire dans les activités, voilà. Ouais. Et de laisser le temps. Moi, laisser le temps au temps, laisser les choses se faire aussi. Ouais. Et puis aussi accepter que bah, les enfants, ils vont tâtonner, puis ils vont peut-être commencer à faire l'activité, et puis au bout de 2 minutes, non, en fait, c'est pas ça que je veux faire. Et là, on peut dire, bah, attends, tu viens de tout installer, et là, bah, et puis quoi encore quoi. Non, maintenant, tu vas jusqu'au bout de ton truc. Bah, pourquoi? Non, c'est pas très grave, en fait. On peut lui demander, effectivement, par contre, de ranger, ça c'est OK. Mais voilà, c'est aussi un apprentissage. Un apprentissage de pouvoir se mettre dans un projet, de s'organiser. C'est aussi un apprentissage de dire, en fait, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas très grave. C'est-à-dire que j'ai mal évalué mon besoin, mes envies du moment. Et peut-être, effectivement, voilà, que c'est d'autres choses dont j'avais envie ou dont j'avais besoin. Voilà, donc c'est. Mais vraiment, enfin, moi, ce qui revient souvent, c'est aussi ça, c'est accepter ce que ça va venir générer chez l'enfant. Voilà. Surtout si c'est je coupe l'écran ou j'enlève l'écran, forcément, ça va. Hop. Ça va générer une décharge hein, de l'ordre de l'impossible hein, de penser par soi-même de faire par soi-même et voilà. Pour moi ça fait partie ouais, des compétences qui sont importantes à pouvoir entretenir et développer chez l'enfant sa capacité à être seul parmi les autres hein, mais pas que de manière virtuelle aussi en présentiel par rapport à ça.